Pour introduire mon partage, je vais passer un extrait qui n'a pas sa place dans une église. Donc vous me pardonnerez, mais c'était juste pour faire une petite intro. Si la technique marche. Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson, de ce début de chanson? Moi, je l'ai entendu chanter par les chrétiens, entendu chanter par une chorale. Et voilà, comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger. N'y a-t-il pas confusion? Est-ce vraiment la vérité? Et j'ai l'air d'expliquer, lors de l'écriture de cette chanson, elle a mis Galilée parce que ça rimait avec l'ensemble. On n'a rien trouvé d'autre. Galilée, il avait trois rimes, c'est bon. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce bien ça que nous trouvons dans la parole de Dieu? Et bien souvent, on essaie de faire correspondre ce que la Bible dit avec ce que nous pensons, avec nos vies, avec ce que nous avons envie de dire, et faire rimer parfois la parole de Dieu avec nos pensées. Ne serait-ce pas plus judicieux de faire le contraire? De vérifier ce que dit vraiment le texte, vraiment ce que Dieu dit. Et je vous propose justement de vous plonger dans cette partie du récit de la naissance de Jésus et d'aller à la rencontre justement des trois rois mages. Lecture, Luc 2, les sept premiers versets. Luc 2, 1 à 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'ils étaient de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y a un deuxième texte dans Matthieu, un tout petit peu plus long. Matthieu, toujours chapitre 2, et les 12 premiers versets. C'est là qu'on rencontre les rois mages. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée. » Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant ». Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce que, étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Jusque-là, la lecture. Père, encore une fois, nous voulons nous mettre devant ce texte et te dire merci. Merci pour ta parole, comme nous l'avons chantée. Merci, parole, qu'elle va nous guider, elle va nous instruire. elle va nous donner ton message. Seigneur, encore une fois, merci de mettre ta main sur nous, au nom de Jésus. Amen. Bethléem, petite ville de Judée. Il s'est passé des choses extraordinaires à Bethléem, et comme nous l'indique le prophète Michée, Michée 5:2, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Bethléem est annoncée. Bethléem a un passé. Elle a déjà été citée quand Rachel accouche de Benjamin, le dernier fils de Jacob, et elle y mourut, et elle fut enterrée à Bethléem. Vous pouvez vérifier Genèse chapitre 35. Allez vérifier. Hein. Bethléem, ville de David, appelée ainsi parce que c'est là qu'il est né. David est né à Bethléem. Bethléem est déjà connu parce que David était aussi loin comme roi d'Israël. Bethléem se trouve juste à 8 km de Jérusalem et sera pendant beaucoup de temps le passage de caravanes allant de Jérusalem en descendant vers l'Égypte. Il n'est donc pas étonnant de rencontrer une hôtellerie. Ah, une hôtellerie, au sens propre du terme, hein, un hôtel. Et voici, je vous cite, Jérémie 41:17. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kiam, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte. C'est un verset tout à fait tiré du contexte, mais je ne voulais avoir que la référence qu'il y avait une hôtellerie à Bethléem. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit non plus que Joseph et Marie étaient allés à cet hôtel-là, à cette hôtellerie-là, et qu'il n'y avait pas de place. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit simplement qu'il y en avait une. Peut-être qu'ils ont été, mais moi, je ne sais rien. On relate des faits. Il y avait bien donc une hôtellerie à Bethléem. Il est quand même étonnant que Joseph et Marie n'ont pas trouvé à se loger chez l'habitant, parce que les Juifs particulièrement accueillants d'habitude, le Juif, lui, s'il a une pièce, tu viens et tu peux loger, tu peux manger avec moi. Et dans cette maison juive se trouve toujours à l'étage ce qu'on appelle la chambre haute, qui a la même dimension que la pièce de vie, qui se trouve juste au-dessus, et qui témoigne de l'importance de l'hospitalité. Les gens étaient accueillis, oui, dans la chambre haute. Mais, apparemment, rien, plus rien, plus de place. Ou encore, on pourrait penser que, et suivant le début de l'évangile de Luc, que Marie a quand même passé un petit temps chez sa cousine Élisabeth, qui était dans les montagnes de Judée. Ils auraient quand même pu, éventuellement, aller loger chez Élisabeth. Mais aucune trace de logement. Il n'y a pas de place. Rien. La raison est simple, on l'a lu. Le premier verset de notre lecture en Luc nous dit « César Auguste ordonna un recensement de toute la terre. » De toute la terre. Décrétez ça un peu aujourd'hui. C'est une atteinte à la liberté, c'est la révolution, c'est contraire aux droits humains. On n'ira pas. Mais apparemment, quand même, les Romains étaient quand même beaucoup plus convaincants que nos dirigeants. Bref, le verset 3 nous dit « Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. » On comprend mieux maintenant le manque de logement. Il se fait que pour aller se faire inscrire dans une ville à 140 km de chez soi et puis retourner le même jour à pied, c'est quand même un peu hard. Donc, dans ces conditions, ben, il faut essayer de trouver un logement. Mais dans les conditions du recensement, c'est comme pour trouver un lit pour la nuit, c'est comme essayer de trouver une place de parking, mais un jour de batte. Hein. Rien. Pas de place. Je me suis posé la question, mais comment le Père Céleste qui prévoit tout, il n'a pas pensé à réserver un endroit valable pour son fils? Il aurait pu. Donc, il déclenche une grossesse virginale et il ne regarde même pas le calendrier pour éviter le recensement. Alors qu'il sait tout. Il ne fait pas. Moi non plus. Mais regardons de plus près cet événement. Notre Dieu est au-dessus de tout, ça on le sait. Il a dirigé la pensée orgueilleuse de César Auguste pour faire arriver Joseph et Marie à Bethléem. En quelque sorte, il ébranle le monde entier pour accomplir la prophétie que Jésus naîtrait à Bethléem, la ville de David. C'est quand même pas la première fois qu'il déclenche ce genre de choses, ou qu'il prévoit autre chose. Il a quand même protégé Daniel dans la fosse aux lions, et c'est quand même le roi Darius qui a dit, écoute, j'espère que ton Dieu va te protéger. Allez voir ça dans le livre de Daniel. Je ne vous donne pas la référence, comme ça il faut tout lire. Et oui, il a fait ça. Et puis un autre jour, il met dans la tête du roi Cyrus, souvenez, Esdras, on va le dire, dans la tête du roi Cyrus, le roi de Perse, de libérer le peuple qui est en exil pour reconstruire le temple de Jérusalem. Et je vous lis cet épisode parce que c'est quand même intéressant. Dieu déclenche des choses, même chez les non-chrétiens, même chez les gens qui pensent autrement que lui. Esdras 1, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prophétie, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout le royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Le témoignage pour un roi non chrétien, non juif, ou non religieux, ou athée. Il n'est donc pas étonnant que l'Éternel soit l'instigateur de ce recensement déclenché par César Auguste. Ça veut dire, il aurait quand même pu mettre autre chose. Imaginez que Élisabeth ait accouché et que Jean-Baptiste soit là et que Joseph et Marie vont rendre une visite. Non. Il met en branle, il secoue toute la terre pour ce recensement. Tout le monde est au courant. Du moins, tout le monde est secoué. De plus, il secoue le ciel. Ah, il n'y a pas que la terre. Il secoue le ciel pour qu'une nouvelle étoile indique que son fils est né. Les cieux et la terre doivent se relier. C'est notre Père, ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel relie la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est ce que Jésus dira au sujet de l'Église, montrant ainsi la direction divine. Joseph et Marie sont probablement restés quelques jours à Bethléem, du moins le temps nécessaire pour faire venir les mages, jusqu'à Jérusalem. Et le texte nous rappelle qu'ils ont seulement vu l'étoile du roi des Juifs en Orient. Ils l'ont vu. La première partie du texte nous dit « On a vu ton étoile en Orient ». Le but est de leur voyage et de l'adorer. Et ils étaient sûrs de leur observation, et j'en ai pour preuve qu'ils ont pris des cadeaux de naissance. La tradition a fait d'eux, que je l'ai dit plusieurs fois, des rois mages. Rois mages, très riches, vu la valeur des cadeaux. Mais la réalité peut être autre. Quand nous pensons aux rois mages, qu'est-ce qu'on a comme vue dans notre tête? Trois chameaux, avec des gros bagages et des hommes très riches. Mais que nous dit le texte? L'évangéliste Matthieu écrit que ces hommes ont vu une étoile qu'ils ont identifiée comme celle du roi des Juifs et qu'ils sont venus à Jérusalem pour savoir où il est né. C'est tout. Rien d'autre. Pourquoi ? Ils n'étaient pas trois. Rien ne nous dit qu'ils étaient trois. On ne connaît pas leur nom. Il y en a qui ont donné des noms. Mais... Vous les savez, je parie. C'est terrible. C'est des choses qu'on retient et qu'on n'a pas besoin de retenir. Mais bon, c'est tout. On ne sait même pas s'ils étaient riches, on ne sait même pas s'ils avaient des chameaux. On suppose, parce que bon, pour traverser le désert, c'était quand même mieux qu'un 4x4, qui n'existait pas à l'époque. Tout cela est quand même du domaine du plausible. Pourquoi est-ce qu'on se rend compte de trucs comme ça dans la tête alors que l'essentiel n'est pas là? Et même, dans certaines traditions, ils sont 12. Hein, bon. Et encore, dans d'autres traditions, c'est toute une caravane, donc ils sont plus que 12. Et oui, les trois rois mages sont multipliés. Peut-être, on ne sait pas. Et le terme mage, qui en grec se dit magos, est traduit dans d'autres textes, par exemple, comme magicien. Dans la Bible, oui, dans la Bible, exemple, acte 13:6, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Texte sorti du contexte aussi, mais ce qui m'intéresse, c'est que le même mot, d'un côté, est traduit par mage, et de l'autre côté, est traduit par magicien. Et le dictionnaire de traduction grec nous dit le nom, en pour Magos, le nom donné par les Babyloniens ou les Chaldéens, Mèdes, Perses et autres aux hommes sages, enseignants, prêtres, médecins, astrologues, voyants, interprètes de rêves, augures, devins, sorciers, aimés, etc. Et en deuxième définition, qui est arrivée après le premier passage de Jésus, les hommes sages orientaux, astrologues, qui avaient découvert le lever d'une étoile remarquable, ont su que le Messie venait de naître et sont venus à Jérusalem pour l'adorer. Ça, évidemment, c'est tiré de la Bible. Vous allez me dire pourquoi je donne autant de détails sur ces hommes. Parce qu'on les a tous dans la tête, ces détails. Parce que, quoi qu'il en soit, que ce soit de superbes rois pleins d'argent ou de vulgaires charlatans sorciers, ils ont découvert une chose extraordinaire. Une étoile. Le signe que le roi des Juifs est né. Et pour cela, il ne fallait pas simplement regarder les étoiles. Ils avaient sûrement dû prendre connaissance des écrits parlant de lui, qu'ils aient étudié les prophéties le concernant, qu'ils aient scruté peut-être le ciel pendant des années, qu'ils aient eu certainement beaucoup de patience et beaucoup de persévérance pour arriver à se mettre en route. Il fallait qu'ils soient convaincus pour se mettre en route, pour rencontrer le roi des Juifs, pour simplement l'adorer. Aucun intérêt. Ils venaient même pas pour faire du trafic avec lui. Non. Rien que pour l'adorer. Quelle conviction, quelle foi. Nous comprenons dès lors la frustration d'Hérode, lui-même nommé par le Sénat romain comme roi des Juifs, oui. Nous comprenons qu'il veuille détruire cet ennemi, fût-il un bébé. Et comme vous savez, l'histoire nous rapportera qu'il fera tuer tous les bébés des environs de moins de 2 ans. Et pour vérifier les dires des mages, Hérode fera venir à lui ceux qui pourraient dire où est né le roi des Juifs. Et notre texte de Matthieu 2, 4, 6 nous dit, voilà, « Il assembla tous les principaux sacrificateurs, donc c'est le texte que nous avons lu, et les scribes du peuple, et ils s'informèrent auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Ceux qui connaissaient la Torah, les prophètes et les écrits sont consultés. Et ils donnent la prophétie du lieu de la naissance. Ils savent, ils ont lu les écrits. Ils savent qu'il doit naître à Bethléem. Et que cet événement est là. Il est arrivé. Ils n'y croient pas. Ils savent aussi que les mages, entre autres les Mésopotamiens, sont d'excellents astrologues. Et imaginez qu'ils ont fait un pareil voyage. Certains disent qu'ils ont fait 1500 kilomètres, à d'autres chameaux, vous imaginez. Et qu'ils ont certainement découvert quelque chose d'exceptionnel pour faire cela. Mais rien. Personne, pas même un seul, n'ira vérifier la venue du Messie attendu. Qui savent qu'il arrive à Bethléem, enfin attendu ou pas. Pas un seul érudit de l'Ancien Testament, personne du peuple élu ne se rendra à Bethléem pour accueillir son roi. Seuls des bergers sans le moindre sou seront avertis et accepteront d'adorer et de se déplacer. Les mages seront guidés par l'étoile qui s'arrêtera au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Le texte nous dit qu'ils entrèrent dans la maison. Ils entrèrent dans la maison ? Tiens, c'est pas une crèche en bois ? C'est pas une espèce d'étable avec un bœuf et un âne. Est-ce qu'on a vérifié? À l'époque, les crèches désignaient une sorte de bac. Les crèches, hein, désignaient une sorte de bac taillé dans la pierre à hauteur de la bouche des animaux pour qu'ils aillent manger, où il y avait de la paille, il y avait de la nourriture. Et tout ça, c'était au rez-de-chaussée de la pièce principale de la maison. Cela permettait aux propriétaires de surveiller et ces animaux, et en même temps, avec leur chaleur, d'avoir un chauffage central. Mais Je vais essayer de faire un petit résumé pour que ce soit un petit peu plus clair de l'architecture d'une maison juive. Au rez-de-chaussée, local à vaches, où se trouvent les mangeoires, on appelle crèche. Et cette pièce pouvait aussi accueillir parfois des voyageurs, des marchands, des gens de passage. Il vient, le lendemain il partait. Il pouvait accueillir des gens de passage. Au premier étage, la pièce de vie de la famille qui était utilisée pour tout. Pour manger, pour dormir, enfin pour toute activité du ménage. Et au-dessus encore, ce qu'on appelle la fameuse chambre haute, qui était réservée aux visiteurs et qui, probablement lors du recensement, était toute prise. Vous savez que 33 ans plus tard, l'une de ces pièces servira à la préparation de la Sainte Cène et à l'effusion de l'Esprit. Jésus naîtra donc dans la plus basse des pièces d'une maison, de la plus petite ville du pays. Il sera adoré par de simples bergers, quelques étrangers voyants. Ce n'étaient pas des gens du pays. Quel accueil pour le roi des Juifs. Dieu suscite donc un recensement mondial pour que s'accomplissent les prophéties arrivées à leur terme et pour que des étrangers viennent adorer Jésus, son Fils. Mais son but final est que le monde entier l'adore. Le monde entier l'adore. Il y a par contre dans notre récit deux sortes de personnes qui ne veulent pas l'adorer. Premièrement, il y a les indifférents. Ce groupe est représenté par les principaux sacrificateurs et les scribes, dont nous avons déjà parlé. Et eux, comme ils croient tout connaître, ils savent tout, ils savent mieux que les autres. Ils n'ont même pas répondu, ils ont juste répondu à la question, ben, il va venir à Bethléem, ouais, d'accord, c'est bon. Leur silence et leur inactivité face à l'ampleur de cet événement, qui a été prédit, est quand même déconcertant. Aujourd'hui, nous vivons de multiples exemples de ce genre de réaction. Et parfois, le silence de l'Église est tout aussi déroutant devant certaines situations qui sont inéluctables et qui sont de notre temps. Et deuxièmement, il y a ceux qui ne veulent pas adorer Jésus et qui se sentent menacés. Ça, c'est Hérode. Hérode, il a peur, à tel point qu'il ment en disant qu'il veut aussi l'adorer. Non, je suis moi le roi des Juifs. Il va aller jusqu'au meurtre pour se débarrasser de Jésus. Parfois, que ne fait-on pas dans notre monde pour effacer toutes les traces du christianisme? Hérode transmet sa peur à tout Jérusalem. À tout Jérusalem. Il est dit dans le texte, Hérode eut peur, et tout Jérusalem avec lui. Donc tout le monde est au courant qu'il se passe quelque chose. Le bruit que le roi des Juifs est né s'est répandu dans toute la ville. Et pourtant, personne... Déjà, les principaux sacrificateurs n'iront pas, mais personne d'autre n'ira. Même pas les responsables religieux. Alors, parfois, quand je vois que devant les paroles de Sheila, on chante ça dans les églises, je ne peux que m'attrister, parfois, du manque de connaissances, du manque de nos connaissances, et parfois de la différence que nous avons vis-à-vis, parfois, de la parole de Dieu. Au lit, mais est-ce qu'on vérifie? Je reprends. Comme les rois mages. Il n'est marqué nulle part que ce sont des rois. Ce sont simplement des mages. En Galilée, Bethléem est en Judée, à 120 km de la Galilée. Suivez des yeux. Ils n'ont pas suivi l'étoile, ils l'ont vue dans le ciel et ils sont été à Jérusalem pour voir où était le roi des Juifs. Ils l'ont suivi. Suivant ce que nous dit le texte, 8 kilomètres de Jérusalem à Bethléem. J'ai lu un commentaire génial qui dit ben, « Voilà, moi je vais vous donner une réponse. Comment ils ont réussi à suivre l'étoile ?» Il a donné une réponse géniale. Je ne sais pas. On ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il ne faut pas essayer d'inventer. Et puis l'étoile du berger. Suivez des yeux l'étoile du berger. On n'a jamais dit que c'est l'étoile du berger. C'est une nouvelle étoile. Et elle est désignée comme l'étoile du roi des Juifs. Si on m'avait dit, suivez l'étoile du roi des Juifs. Et on écoute, et on est content, et on chante ça dans les églises. Désolé. Remettre les pendules à l'heure, c'est pas plus mal de temps en temps. Mais il faut faire ça avec tous les textes. Et en conclusion, si Noël n'est pas vraiment le 25 décembre, parce que Jésus n'a jamais été dit qu'il est né le 25 décembre, c'est pas vraiment la date, il n'en est pas moins un jour important, ou plutôt une nuit. Une nuit mémorable où le Père Céleste laisse de côté sa puissance pour faire naître son Fils, tel un fragile bébé dans une mangeoire, pour que le monde entier puisse, et que nous puissions avoir accès au salut. Puissions-nous ne pas être hostiles ou indifférents devant ces événements mondiaux, parfois qui nous secouent, que probablement Dieu a déclenchés, ou du moins qu'il a entre les mains. Peut-être qu'il déclenche aussi encore aujourd'hui une espèce de recensement pour annoncer le retour du roi des Juifs, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous pouvons être devant toi et savoir, et nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Ô Seigneur, que nous puissions creuser ta parole pour vérifier vraiment ce que tu nous dis à nous et ce que tu dis pour le monde entier. Merci pour Jésus. Merci parce qu'il est descendu vers nous pour nous sauver et nous libérer. Ô, que nous puissions le proclamer au monde entier pour que le monde entier puisse venir l'adorer. Amen.